J'aimerais que vous tourniez avec moi dans l'évangile de Marc, et nous sommes arrivés au chapitre 15. Alors je dis ça pour nous tous, et peut-être nos visiteurs ont bien compris que nous avons parcouru l'évangile de Marc. Nous sommes donc arrivés au chapitre 15, et nous allons lire à partir du verset 42 jusqu'à la fin du chapitre. Marc, chapitre 15, verset 42. Le soir venu, c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du grand conseil qui, lui aussi, vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il fit appeler l'officier de service et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il autorisa Joseph à disposer du corps. Celui-ci, après avoir acheté un drap de lin, descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau taillé dans le roc. Puis il roula un bloc de pierre devant l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de Josée, regardaient où il le mettait. Imaginez cette scène. C'est la scène de désolation qui suit la crucifixion. Nous avons déjà noté que lorsque Jésus a été crucifié, il y a eu des ténèbres, une obscurité qui a plongé le pays à partir de midi. Vers 15 heures, le Seigneur Jésus meurt. Et j'imagine que cette obscurité continue. Il fait sombre, il fait noir. Les disciples ont abandonné Jésus. Le seul disciple à avoir suivi Jésus jusqu'à la croix, c'était Jean. Mais là, ce texte ne nous parle pas de Jean ni de Marie, la maman de Jésus. Donc j'imagine, le texte ne le dit pas, mais j'imagine que Jean s'occupe de Marie, la maman de Jésus, et la console. Christ est mort, abandonné. Les disciples étaient impuissants, découragés. Seules quelques femmes continuent à... Ils étaient là à la croix et le texte nous dit que Marie de Magdala et Marie, mère de Josée, ont continué de rester près du corps du Seigneur. Mais il y a quelqu'un qui va être un héros. Un héros qui arrive un petit peu tard. Une personne qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Alors, Joseph d'Arimathée, et d'autres textes nous disent aussi, en particulier l'évangile de Jean, nous dit qu'il n'était pas seul. Nicodème, celui qui était allé voir Jésus pendant la nuit pour lui poser des questions, Nicodème qui avait essayé dans le passé de défendre Jésus auprès du grand Sanhédrin, Nicodème est là aussi. Et Joseph d'Arimathée va aller en mission, une mission particulière, une mission probablement qu'il est seul à pouvoir faire, c'est-à-dire de récupérer le corps de Jésus pour l'enterrer. Alors ce n'est pas facile ce qu'il fait. D'ailleurs, le texte nous dit qu'il avait du courage, hein. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Du courage, pourquoi? Parce qu'il est membre du Grand Conseil. D'ailleurs, Nicodème est aussi membre du Grand Conseil. Donc, ces deux personnalités, alors je ne sais pas si Nicodème est allé voir Pilate, mais toujours est-il que Joseph va le faire pour demander le corps de Jésus. Et ça, c'est difficile par rapport aux autorités romaines, d'abord, parce que normalement, Normalement, les corps des condamnés pour insurrection, des condamnés à la peine de la crucifixion, normalement les corps devaient rester sur la croix. Donc on ne récupérait pas vraiment les corps, on les laissait pourrir sur la croix. Et à la rigueur, si on les laissait descendait de la croix, ils étaient jetés dans une fosse commune. Et si on permettait à quelqu'un de récupérer le corps, c'était une permission particulière, ce n'était qu'aux familles. Or, Joseph d'Arimathée ne fait pas partie de la famille de Jésus. Pourtant, il prend le risque d'aller voir Pilate. Alors, je ne sais pas pour vous, mais Pilate, lui, déjà, il a été drôlement embêté avec toute cette histoire. Il a été poussé par le Sanhédrin, par les autorités religieuses, à faire mettre à mort Jésus. Et je ne suis pas sûr que Pilate apprécie qu'on continue de l'embêter avec cette histoire. Alors, Pilate, d'ailleurs, se renseigne, il est un petit peu étonné. Il dit, mort, déjà ? Le Seigneur Jésus a passé à peu près 6 heures sur la croix. Les historiens nous disent qu'un crucifié pouvait parfois rester plusieurs jours sur la croix. Et d'ailleurs, pour accélérer la mort, pour la faire venir plus vite, eh bien, parfois, on cassait les jambes des prisonniers. Selon l'apôtre Jean, c'est exactement ce qui est arrivé. Les autorités juives, elles, ne voulaient pas voir ces corps rester pendant le sabbat, rester sur la croix. Et elles ont donc demandé à ce que on fasse descendre les corps le plus rapidement possible. Donc les Romains ont mis à mort les deux brigands qui étaient sur la croix en leur cassant, leur brisant les jambes avec un maillet. C'était des gros maillets de bois et on brisait les jambes pour que la personne ne puisse plus se soulever, le crucifié ne puisse plus se soulever et donc la personne suffoquait assez rapidement. Alors pour Jésus, il était déjà mort, Jean nous le dit aussi. Les Romains avaient vérifié qu'il était bien mort en donnant un coup de lance sur le côté. Et l'apôtre Jean de nous dire que de cette blessure sortait du sang et ce qui ressemblait à de l'eau. Jésus est mort rapidement. Il est mort rapidement parce que, d'abord, il a souffert énormément. Il a été battu. Il a toute la nuit pratiquement, il a été bousculé. Il a été frappé, il a été flagellé avec un fouet assez terrible que les Romains avaient inventé, qui était un instrument de torture abominable qui arrachait la peau. Et épuisé physiquement, le Seigneur Jésus est mort. Mais la Bible nous dit aussi cette chose assez intéressante que Jésus disait que on n'allait pas lui prendre la vie, c'était lui qui la donnerait. Et il est fort possible que dans cette mort rapide du Seigneur Jésus, il n'y ait pas que le problème d'ordre physique, la douleur et la souffrance physique qui ait accéléré sa mort, mais qu'il y ait aussi cette douleur spirituelle de se savoir rejeté du Père, de se savoir séparé du Père, à cause des péchés du monde, à cause de mes péchés, de vos péchés, qui ont été placés sur le Seigneur Jésus. Toujours est-il que le Seigneur Jésus meurt rapidement. Pilate est d'abord surpris, il fait vérifier la chose, et puis il va permettre à Joseph d'Arimathée de recevoir le corps. Alors déjà, d'un point de vue des Romains, c'est assez exceptionnel que cette permission soit donnée. Mais je vous ai dit que Joseph d'Arimathée était quelqu'un de courageux parce que il n'y avait pas juste le danger avec les Romains. Étant membre du Grand Conseil, il se mettait aussi en position d'être rejeté. rejeté par, eh bien, ses collègues. C'était quelqu'un de riche. Hein, Matthieu nous dit que c'était un homme qui était riche. C'était quelqu'un de puissant. C'était quelqu'un d'influent. Et les gens qui sont riches et puissants et influents, aiment bien garder cette richesse, cette puissance et cette influence sur les autres, ce pouvoir. Et là, il se met en danger vis-à-vis des autorités juives qui certainement ne vont pas du tout apprécier que cette personne, non seulement nous dit, alors ça c'est l'évangile de Luc qui nous le dit, il s'était insurgé contre la décision du grand Sanhédrin. Il n'avait pas été d'accord avec leur décision. Non seulement il n'avait pas été d'accord lors du jugement, mais voilà que maintenant, il s'occupe du corps de Jésus-Christ. C'est franchement courageux et c'est quelque part étonnant. Pourquoi faire cela? Pourquoi prendre un tel risque? Probablement, il avait été outré, il avait été consterné, il avait été attristé par l'injustice de la condamnation de Jésus. C'était quelqu'un, nous dit Marc, qui vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Et lorsqu'il entendait le Seigneur, j'imagine qu'il avait entendu le Seigneur Jésus, il était son disciple, il avait vu que le Seigneur Jésus annonçait ce royaume de Dieu. Et donc Joseph d'Arimathée va risquer sa position, va utiliser ses biens pour s'occuper du corps du Seigneur Jésus. Seul un homme affluent aurait pu faire ce qu'il fait. Seul quelqu'un qui avait l'opportunité d'aller parler à Pilate, ce qui n'était pas bien sûr le cas de tout un chacun, et seul quelqu'un de riche pouvait faire ce qu'il avait fait. Parce qu'il va acheter, nous dit le texte, un drap de lin pour envelopper le corps. Parce qu'il va le déposer dans un tombeau neuf. Pas n'importe quelle sorte de tombeau, mais un tombeau qui a été creusé dans la roche. Probablement pour lui-même, pour sa famille. Et là, il l'utilise pour Jésus. Alors, on ne sait pas exactement où se trouvait ce tombeau. Alors, aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, j'espère qu'un jour vous pourrez y aller, peut-être que vous y êtes déjà allé. Il y a deux sites qui prétendent être l'endroit du tombeau de Jésus. Il y a une église, hein, une église du Saint-Sépulcre, qui est bâtie sur cet endroit et qui est bâtie sur un cimetière juif. Donc c'est possible que ça soit l'endroit. De nos jours, la plupart des personnes vont dans un jardin, qui a une tombe taillée dans le rocher avec une grosse pierre. Et même si ce n'est pas l'endroit, du moins ça ressemble à ce que ça aurait dû être il y a 2000 ans. Mais toujours est-il que les gens savent où il est enterré. D'ailleurs, je ne sais pas si vous notez, mais il y a deux femmes qui sont là, Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, qui regarde où il le mettait. Alors, d'autres textes nous donnent toutes sortes de détails. On nous dit que Nicodème était venu avec 30 kilos d'épices, pour s'occuper, d'un mélange d'épices pour s'occuper du corps. Et si ici, on nous parle d'un drap de lin, l'apôtre Jean nous parle de bandelettes. Alors on est un petit peu confus. Matthieu, Marc et Luc nous parlent d'un drap. Jean nous donne l'impression que peut-être d'autres choses, de bandelettes. Normalement, et je ne vous dis pas que c'est arrivé exactement comme cela, mais normalement, les Juifs, lorsque quelqu'un mourait, donc ils nettoyaient le corps, et puis ils enduisaient des bandelettes de ces épices, hein, si vous voulez, et ils entouraient le corps comme un peu comme un bandage. C'est pour ça, lorsque Lazare a été ressuscité par le Seigneur Jésus, qu'un des premiers ordres que le Seigneur Jésus a donné, c'est d'aller le libérer. Il était un peu coincé par tous ces bandages. Mais il n'est pas sûr que cela est arrivé avec le Seigneur Jésus. Pourquoi je dis cela? Parce que le texte nous dit au verset 22, le soir venu. Comprenez bien, c'était le soir, on nous dit c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. La veille du sabbat, c'était le jour de la préparation, parce que normalement au sabbat on ne devait rien faire. Donc le jour avant le sabbat, il fallait tout préparer, il fallait préparer les repas, il fallait tout préparer avant le sabbat. Donc le jour de la préparation, c'est le dernier moment pour faire tout ce qu'on a à faire. Et le sabbat commence quand? Le vendredi soir, à la tombée de la nuit. On nous dit le soir venu. Alors, c'est un peu, pour nous, c'est un peu sujet à confusion. Lorsqu'on dit le soir venu, c'est que pour les Juifs, il y avait deux soirs. Il y avait le véritable soir avec la tombée de la nuit, mais il y avait, si vous voulez, le début de soirée. Et nous sommes en fait dans le début de soirée qui commençait à 15h et allait jusqu'à 18h. Donc, nous savons que le Seigneur Jésus meurt vers 15h. Et nous savons qu'à 18h, il faut qu'il soit enterré. Entre-temps, de 15h à 18h, vous me dites, ça fait 3h. Oui, mais il faut aller demander la permission à Pilate. Il faut avoir cette permission. Pilate qui va se renseigner, etc., etc. Il faut aussi descendre le corps. Il faut l'amener jusqu'à la tombe. Il faut acheter les épices. Il faut acheter le drap. En fait, 3 heures, ce n'est pas beaucoup. Et il est fort possible, plus que possible même, que le corps de Jésus a été placé très rapidement dans le tombeau. Le tombeau a été fermé. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que le dimanche matin, que vont faire les femmes? Elles vont au tombeau. Pourquoi? C'est pas pour pleurer. Elles vont au tombeau pour s'occuper du corps de Jésus. Les épices ont été amenées, le corps a été déposé, et fort probablement, il n'y a pas eu le temps véritablement de s'en occuper. Alors, vous me dites, tout cela, c'est intéressant, mais qu'est-ce que cela nous dit pour nous aujourd'hui? Eh bien, moi, je vous suggérerais que c'est encore une fois un des textes de la Bible qui nous parle de l'importance de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous sur cette terre, nous avons certaines capacités, nous avons certaines connaissances, nous avons certaines possibilités que d'autres n'ont pas. Ce qui va s'accomplir ici, seul Joseph d'Arimathée pouvait le faire. Il pouvait le faire parce que il était quelqu'un qui appréciait Jésus. Il pouvait le faire parce que, étant membre du Sanhédrin, il avait accès à Pilate. Il pouvait le faire parce qu'il était un homme riche. Aucun des disciples n'aurait pu faire ce que Joseph d'Arimathée a fait. Peut-être qu'ils auraient pu récupérer le corps, ça c'est peut-être à la rigueur possible, mais ils avaient trop peur pour le faire. Mais pour le mettre où? Pour le mettre où? Les corps normalement des condamnés à la crucifixion, s'ils n'étaient pas laissés à pourrir sur la croix, étaient jetés dans une fosse commune. Les Juifs interdisaient que les condamnés soient enterrés dans le même cimetière que les autres. Ils ne voulaient pas que que les pêcheurs contaminent l'endroit où étaient enterrés des personnes, dirons-nous, normales. Mais Joseph d'Arimathée va le faire parce qu'il est un homme riche, parce qu'il est un homme d'influence. Et la question qu'on doit se poser, c'est nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour Dieu? Pourquoi est-ce qu'il nous a placés dans ce monde? Qu'est-ce qui est particulier dans ma vie que Dieu voudrait utiliser pour sa gloire? Comprenez bien, lorsqu'on lit les évangiles, on s'aperçoit que Jésus n'est généralement pas du côté des riches. Je ne sais pas si vous êtes, en lisant comme ça, vous vous êtes rendu compte de cela. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on s'aperçoit que, oui, il peut y avoir des personnes riches, mais dans la plupart des cas, le royaume de Dieu est donné pour qui? Pour les pauvres et pour les humbles. Si vous relisez le sermon sur la montagne, les béatitudes, la première béatitude dit ceci: heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Les personnes riches sont difficilement humbles. Parce que les personnes riches ont eu du succès dans ce monde, et il est tellement facile de s'imaginer qu'on a tout mérité, que tout nous est dû. Il est tellement facile de s'imaginer qu'à cause de notre puissance et de notre argent, nous pouvons tout faire, tout dire, que même parfois la loi n'est pas pour nous, mais pour les autres. Ça, c'est le problème souvent des gens de pouvoir. Ils font des lois qu'ils estiment bonnes pour tout le monde, à part pour eux. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que le Seigneur Jésus a rencontré des gens riches. Je pense en particulier à ce jeune homme qui était riche et que le texte nous dit que Jésus l'aima. Ce jeune homme riche voulait savoir comment pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, comment obtenir cette vie éternelle. Si vous vous souvenez, le Seigneur Jésus lui avait dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Le jeune homme avait dit, moi j'ai fait ça, j'ai suivi toutes les règles. Et le Seigneur Jésus de lui dire, écoute, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, tu as un trésor dans les cieux et toi, tu me suis. Et ce jeune homme était parti attristé. Parce que la richesse dans notre vie, nous dit la Bible, devient comme une idole. Une idole qui remplace Dieu, qui nous permet de nous imaginer ne avoir besoin de rien. Pour l'homme riche, selon la Bible, il y a trois problèmes. Le premier, c'est de s'imaginer n'avoir besoin de personne, même pas de Dieu. L'argent qui remplace Dieu, l'argent qui devient une idolâtrie. C'était l'histoire du riche fermier. Vous vous souvenez, ce riche fermier, il avait fait une récolte absolument fantastique. Il dit, je peux prendre ma retraite, tout va bien. Je vais faire des grandes granges pour stocker tout cela et tout va bien. Et le Dieu de lui dire, mais tu es fou. Ce soir même, tu meurs. Le Seigneur Jésus disait, à quoi ça sert de gagner le monde entier si vous perdez votre âme? Et le problème de ceux qui se fixent comme but dans ce monde d'être riche, c'est qu'ils s'imaginent que cela est tout. Ils oublient que nous ne sommes pas faits juste pour vivre dans ce monde, mais que nous sommes faits pour vivre éternellement et que nos richesses si elles sont utilisées pour nous-mêmes, alors sont source de condamnation. Si vous avez une minute, on peut regarder ensemble ce que l'apôtre Jacques dit aux riches au chapitre 5. L'épître de Jacques, la lettre de Jacques au chapitre 5. C'est assez édifiant. Dans notre monde si plein de richesses, c'est pas une lettre qu'on aime trop lire. Jacques chapitre 5. Et maintenant écoutez-moi, vous qui êtes riches, pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont corrodés, et cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez entassé des richesses dans ces jours de la faim. Vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. Cette injustice crie contre vous, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. Vous avez vécu ici-bas dans les plaisirs et le luxe. Vous vous êtes engraissés comme des animaux pour le jour où vous allez être égorgés. Vous avez condamné, vous avez assassiné des innocents sans qu'ils vous résistent. Il y a trois choses qui sont dites dans ce texte. Trois problèmes avec la richesse. La richesse, parfois, pour l'obtenir, on maltraite les autres. On utilise les autres. On met en esclavage les autres. Première chose, c'est pas une obligation, mais ça peut arriver. La deuxième chose, c'est quoi? C'est de vivre pour soi-même. De vivre dans le luxe, de penser qu'à soi-même. Si vous vous souvenez de l'histoire du pauvre Lazare et du riche, c'était quoi cette histoire? Il y avait cet être, ce mendiant, pauvre et misérable, qui mourait de faim à côté de la maison du riche. Et lorsque tous les deux meurent, le riche se trouve séparé de Dieu dans la souffrance, à se rendre compte qu'il a gaspillé sa vie, alors que Lazare est consolé dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. La première chose, je vous l'ai dit, c'est que la recherche de la richesse peut parfois faire que l'on exploite les autres. La deuxième chose, c'est que l'on vit pour soi-même, rien que pour soi-même, en oubliant les autres. Et la troisième chose, c'est que vous avez condamné, vous avez assassiné des innocents sans qu'ils vous résistent. C'est que l'argent donne de la puissance qui permet parfois d'opprimer les autres. Alors, si la Bible dit des tas de choses contre les dangers de l'argent et de la richesse, on voit aussi des exemples de pouvoir et de richesse utilisés correctement. Alors, je ne vous dirai pas toutes les personnes de l'Ancien Testament, vous les connaissez, Abraham et les rois, etc., qui avaient des richesses et voulaient les utiliser pour Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons ici cet exemple de cette personne. Cette personne avec une position particulière qui s'est comportée différemment des autres membres du Sanhédrin. Parce qu'il avait rencontré Jésus. Il avait vu en lui quelqu'un d'important. Un prophète probablement de Dieu. Et il voulait l'honorer, quoi que cela lui en coûtait. La Bible nous dit que chacun d'entre nous, nous avons une place. Elle nous prévient des dangers de l'orgueil, des dangers des richesses, de nous fixer sur les richesses de ce monde plutôt que de nous fixer sur Dieu. Mais elle nous dit aussi que nous pouvons utiliser ce que Dieu nous a donné pour sa gloire. Les richesses, Dieu peut les utiliser. Dieu veut les utiliser. Non pas pour que nous soyons centrés sur nous-mêmes, mais plutôt pour que nous demandions à Dieu comment le servir avec ses richesses. Joseph d'Arimathée, il acheta un drap de lin. Joseph d'Arimathée utilisa son argent, ses fonds, pour acheter un tombeau qu'il donna à Jésus. Seul lui pouvait faire cela. Chacun d'entre nous, je l'ai dit ce matin, est différent. Chacun d'entre nous, même si nous sommes pauvres, chacun d'entre nous a des possibilités qui nous sont propres pour être utiles à Dieu. Et la grande tristesse dans ce monde, c'est que nous passons tellement de temps à ne penser qu'à nous-mêmes. Que le Seigneur nous aide, riches ou pauvres, à vivre pour lui, pour ceux qui ont de l'influence, pour ceux qui ont certains moyens. Que l'exemple de Joseph d'Arimathée soit un bon exemple à suivre. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur Jésus a des répercussions dans l'éternité. Tout ce que nous faisons pour lui, Dieu le sait, Dieu s'en souvient. Et Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grâce, nous le rendra. Je vous propose de prier, de demander d'avoir une attitude qui est juste par rapport aux choses de ce monde, une attitude qui est juste par rapport à Jésus et par rapport à la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu vois nos vies, tu vois nos désirs, tu vois ce qui nous fait fonctionner dans ce monde. Seigneur, à travers les âges, tu as placé des personnes en position de puissance, en position de forme, des hommes et des femmes. Nous pensons à la reine Esther, nous pensons à Joseph, pas Joseph d'Arimathée, mais le Joseph de l'Ancien Testament, qui a été le bras droit du Pharaon. Nous pensons à Néhémie, à Daniel, et Seigneur aussi à Joseph d'Arimathée. Chacun d'entre nous, Seigneur, peut faire quelque chose qui a de l'importance. Merci Seigneur parce que tu te préoccupes des pauvres. Merci parce que tu te préoccupes de toutes les personnes qui sont rejetées. Merci Seigneur parce que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Mais Seigneur, merci parce que quelle que soit notre position dans ce monde, quels que soient nos moyens, tu veux nous utiliser. Pour ta gloire, tu veux nous utiliser pour que nous ayons un impact positif. Tu veux faire de nous le sel de la terre et la lumière de ce monde. Pardon pour toutes les fois. Seigneur, nous vivons pour nous-mêmes. Merci. Merci parce que tu nous appelles à t'être fidèles. Et tu nous rappelles que tout ce que nous faisons pour toi, tu le remarques, tout ce que nous faisons pour toi t'apporte de la gloire, et tout ce que nous faisons pour toi, Seigneur, un jour, tu nous le rendras, parce que tu es un Dieu qui est bon, parce que tu es un Dieu qui est généreux. Donne-nous de l'être à notre tour. Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen.